du Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Allez, c'est reparti pour le Coq à l'âne numéro 670. Bruno André, Louis Albran qui était avec nous tout à l'heure et qu'on remercie encore d'avoir pris du temps puisqu'il est en train de bosser en ce moment sur Paris. Patrick Faure, Michel Roussel, Pierre-Louis Rouni. C'est reparti. L'impact de la pandémie sur l'économie locale.
L'économie locale, j'ai pas la prétention. Mon avis sur l'économie, mais ça me fait plaisir que Louis ait dit à un moment donné dans son propos que l'économie allait mal. Et après, à la fin, en conclusion, que l'économie n'allait pas si mal que ça. Mmh. Et c'est marrant parce que Louis, comme tout le monde, il n'échappe pas à la règle et c'est normal, c'est un être humain comme nous, est capable de dire quelque chose et quelque chose après qui n'est pas forcément la même chose, n'est-ce pas ? Pour ne pas dire qu'il dit le contraire.
Non, il a dit qu'on était mal au jour d'aujourd'hui,
voilà,
mais que ça allait repartir par euphorie. Oui, de toute façon, c'est vrai, il y a 23 milliards sur les livrets A. Mais ça, forcément, les gens sont en attente.
Oui.
Mais parce que ça va repartir, je pense que ça va exploser.
Je veux terminer.
D'ailleurs,
parce que toi, tu as vu l'économie un jour aller tout le temps bien. Mais l'économie, c'est ça.
Non, mais particulièrement dans... Aujourd'hui,
t'as oublié 2009, t'as oublié.
J'oublie pas 2009.
Ah bon.
Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, le contexte sanitaire fait que tes entreprises, parce que non, l'économie qui va mal, c'est pas que le fric, c'est aussi dans la tête des entrepreneurs qui peuvent pas avoir de perspective.
C'est ce que j'allais dire si tu me laisses terminer.
Arrête de balancer des vannes alors.
Mais je balance pas de vannes, au contraire, je dis simplement que quand on dit l'économie va mal. Il faut être un peu mesuré parce que d'abord, l'économie, elle va mal parce qu'on se dit qu'elle va mal. Parce que c'est quand tu crois que ça va, que tout va mal, que tu mets de côté, que tu investis plus, etc. Alors que certains disent d'ailleurs que
c'est à ce moment-là. Il n'y a pas moyen de dépenser, donc tu mets de côté.
Et en ce moment, qui?
Pas tous en même temps.
En ce moment, pour qui c'est le plus difficile? Mais ça ne se voit pas. C'est mon avis, c'est pour l'État. Parce que celui qui dépense beaucoup en ce moment, c'est l'État.
Mais comme l'État, c'est nous. C'est différent.
Heureusement que tu es là pour anticiper ce que je veux dire. Comme l'État, c'est nous, effectivement, un jour, ça ira mal. Mais si on dit qu'un jour, ça ira mal, en même temps que l'on dit un jour, ça ira mieux parce qu'on voit ce qui se passe à la bourse, en fait, on se contredit. Donc, d'une manière générale, je pense qu'il ne faut surtout pas être dans la sinistrose. Personnellement, dans mon métier, et je ne suis pas tout seul à côté, tu ne me contrediras pas certainement. Effectivement, il y en a qui sont très, très, très atteints. Ah, c'est sûr que, en ce moment, avoir un commerce et vendre des vêtements, par exemple, c'est très compliqué. Mais il y a plein d'autres métiers pour lesquels ça va, je dirais pas, c'est pas que ça va bien, mais ça va pas si mal que ça. Mmh. Et il vaut mieux, quand même, garder en tête que pour une grande majorité des métiers, pour l'instant, parce qu'on est soutenu par les efforts de l'État, ça va bien. Parce que sinon, pour ceux pour qui ça va mal, alors là, c'est grave, parce que si tu leur envoies des signaux à eux pour qui ça va vraiment très mal, que ça va mal pour tout le monde, ils n'ont même plus de perspective. Donc je pense que par respect pour tous ceux qui sont dans des situations bien compliquées, il vaut mieux dire, attendez les gars, c'est ça la vie économique, c'est la roue qui tourne. Pour l'instant, c'est difficile pour vous. Un jour, ce sera à mon tour que ce sera difficile. Mais en ce moment, on est prêt à t'aider parce que, voilà, d'une manière ou d'une autre. Juste pour dire ça.
Michel.
Il faut être optimiste puisqu'on a eu un précédent confinement sur lequel, effectivement, il y avait des contraintes. Et puis... si on prend le cas des Hautes-Alpes, on s'est rendu compte que la saison a été très bonne.
Oui, la saison, tu veux dire, d'été.
Tout à fait. Ce qui laisse entendre, effectivement, il faut rester optimiste d'une certaine manière. Cela dit, il y a des gens qui ont fermé leur boîte, qui aujourd'hui, on voit, il y a certains reportages, il y a des entrepreneurs, des commerçants qui vont chercher de l'argent, ils vont trouver des emplois pour essayer d'équilibrer. Il faut reconnaître que l'État joue son rôle. Il est là pour aider, étayer, appuyer dans une certaine mesure les structures qu'il mérite. On sait effectivement que l'argent globalement ne sera pas au rendez-vous pour tout le monde, il y aura de la casse. Ceux qui n'ont pas de réserve, qui malheureusement sont contraints de fermer, je ne sais pas comment ils vont rebondir plus tard, ça va être désolant, mais de toute manière ça va renaître d'autant plus fort et d'autant plus vite. Ceux qui auront des projets, qui auront l'envie, une fois que l'embellie d'un avenir plus certain fera se pointera le bout de son nez, il y aura plein d'ambitions de jeunes, de gens qui ont des expériences, et ça marchera comme toute chose. Il y a toujours une renaissance qui, à un moment donné, arrive. Sauf que la transition, il faut être là, il faut encore être là, malheureusement pas être touché par le Covid et laisser sa peau, il faudra encore être là, doté effectivement de plein d'espoir. Mais quand on sort du brouillard et qu'on voit l'embellie, il y a de l'espoir, il y a de l'horizon. Et là, ça apporte, comment dire, une stimulation pour tout le monde.
Je te donne la parole, Bruno, uniquement pour dire que les chiffres de la consommation de décembre sont sortis et ça fait longtemps qu'on n'avait pas autant dépensé, que les Français n'avaient pas autant dépensé au mois de décembre dernier. Voilà, c'était uniquement pour vous dire ça, pour vous dire que, comme tu disais, Patrick, il y a effectivement de l'argent que les gens mettent de côté et qui pourront ressortir dès l'instant, ça ira mieux et peut-être irons-nous vers 30 nouvelles glorieuses. C'est trop jamais.
Vas-y. Alors, moi, je suis bien d'accord avec ton chiffre que tu viens d'annoncer, là. Mais il ne faut pas oublier que novembre, on était confinés. Donc, il n'y a pas eu de consommation, il y a eu un report, il y a eu les fêtes, etc.
D'accord.
Moi, par contre, je peux te donner un chiffre sur janvier. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une incohérence entre un petit peu l'État, les mesures exceptionnelles que prennent l'État de soutien, qui sont quand même importantes. Moi, c'est quand même du jamais vu. Hein. C'est impressionnant. Et c'est pour ça que moi, je dis aussi qu'il faut libérer l'économie, parce que je me dis qu'à un moment donné, l'État ne pourra pas se substituer indéfiniment à ce manque de roulement économique. Par contre, il y a des décisions qui sont assez incohérentes. Moi, je prends par exemple le couvre-feu à 18h. On s'aperçoit que ça n'a pas changé grand-chose au niveau des résultats de la santé locale. Par contre, ça a un peu plus mis la tête sous l'eau à certains commerçants, parce qu'aujourd'hui, l'activité économique de janvier, elle est catastrophique. Mmh. On a reporté les soldes, ça n'a pas marché. Les gens ont perdu un petit peu les repères des soldes, etc. Le couvre-feu, il faut savoir qu'à 17h, il n'y a plus personne dans les commerces. Ouvrir le dimanche, c'est quand même une vaste connerie, parce qu'à un moment donné, il vaut peut-être mieux que les clients ils aillent s'aérer un peu le week-end, etc. Et puis, tu as besoin de faire souffler le personnel. Et puis, je crois que, y compris les dirigeants, hein, il faut quand même, on peut pas ouvrir du matin, 9h du matin jusqu'au soir 18h, non-stop, et puis encore 7 jours sur 7. La solution, elle est pas là, quoi. Il y a des décisions qui sont assez incohérentes, et dans le couvre-feu, moi, je comprends pas. C'est pour ça que un nouveau confinement, à mon avis, serait une connerie. Et je suis bien d'accord avec toi, Pierre-Louis. De toute façon, après cette période difficile, il y aura un redémarrage de l'économie. Le plus important et l'essentiel, c'est qu'on perde pas trop de soldats, quoi. Qu'on perde pas trop de soldats et que le quoi qu'il en coûte ne nous coûte quand même pas trop, trop cher non plus. Voilà.
Ben, la grosse crainte, effectivement, de ne pas faire un confinement, c'est d'avoir une nouvelle vague importante sur laquelle le secteur hospitalier, le monde des soignants n'arrivera pas à faire face.
Alors,
et là, la casse, elle peut être importante.
Je suis d'accord.
C'est pour ça que le gouvernement aujourd'hui, tu l'as dit Thierry, aujourd'hui, ils ont tellement la trouille d'être attaqués sur tous les domaines que au-delà du parachute, au-delà du parapluie, c'est le parachute que tu es obligé d'ouvrir. Parce que notre société, la responsabilité individuelle, je sais plus qui l'a évoqué, elle n'est pas, c'est pas possible. On ne sait pas faire.
La responsabilité individuelle. Là, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué de demander aux gens. Vous êtes responsable. Parce que les gens, c'est pas si t'as remarqué, mais depuis le début de cette pandémie, on dit ouais, on nous infantilise, machin, etc. Mais si demain tu demandes aux Français, chacun fait comme il l'entend, objectivement et en prenant soin. Je suis sûr que ça marchera pas.
Regarde Noël, ça n'a pas été une catastrophe.
Ça a été déjà un appel du président de la République lors du premier ou du deuxième confinement, qui en appelait aussi à la responsabilité individuelle. Hein.
Tout à fait.
Le discours, il a déjà eu lieu.
En tout cas, c'est vrai qu'on peut pas critiquer les Français sur leur façon de faire, parce qu'à part quelques exceptions, ils sont très très bien comportés, on l'a vu à Noël. On critique souvent l'État. L'État, tout le temps, quel qu'il soit, parce que ça, hein, ça fait des années quand même qu'on fait ces émissions. Comme ils sont tous passés.
Que ce soit droite, gauche, centre, milieu, de tous les côtés, c'est vrai que...
et si on critique l'État, la raison de cette critique de l'État, c'est une critique finalement des Français, parce que là, ils se comportent bien, mais dans leur façon de critiquer, c'est que c'est quand même compliqué de gouverner, parce que ce qu'on oublie, c'est ce qui se serait passé si on avait fait le contraire ou quelque chose de différent. Alors, on entendait parler des vaccins. C'est assez marrant que tous les Français, qu'une grande partie des Français, ou en tout cas, une grande partie, les Français qu'on entend se plaignent de ce qui se passe avec le vaccin, alors que quand on nous parlait de l'arrivée du vaccin sans polémique sur le nombre et la quantité, il y en avait plein qui disaient la moitié, ne veux pas être vacciné.
Mais
imaginons qu'on ait réussi grâce à l'Europe à faire venir un vaccin pour tout le monde et que là la polémique en ce moment ce soit putain moi je ne veux surtout pas qu'on m'impose le vaccin. Mais vous savez qu'on dirait avec autant d'insistance que voyez, on a raison de critiquer l'État alors qu'il aurait fait le contraire de ce qu'on dit.
Mais c'était
c'est quand même très très compliqué de gouverner. Mais moi je personnellement je pense que tous les gouvernements ferait la même chose parce que l'État français, il est comme ça. Elle est où notre sensibilité première? Ben, notre sensibilité première dans l'arbitrage que l'on fait entre un décès, même s'il a 80 balais, et une faillite, le Français, il sera beaucoup plus vindicatif vis-à-vis de l'État si c'est un décès à 80, une faillite. Et comme tous les arbitrages sont faits comme ça, tu vois, je t'entendais dire sur... mais autant je me fais lyncher en sortant de là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ferme les remontées mécaniques? Mais c'est vrai que c'est absurde, absurde de les fermer. Mais si on ne les avait pas fermées, il y en aurait plein qui seraient venus en disant, ben voilà, à cause de l'ouverture des remontées mécaniques, il y a eu plein de gens qui se sont cassés la jambe, parce que ce n'est pas le problème des remontées mécaniques. Il y a plein de gens qui se sont cassés la jambe et on a été obligé d'arbitrer entre Robert, qui avait la jambe cassée à 40 balais, et Ursule, là, qui avait 80 balais et qui était en...
En Covid.
Voilà, en Covid. Et là, ben, on n'aurait trouvé aucune excuse.
On en aurait qui serait monté au créneau en disant mais sûr. Pourquoi vous avez ouvert les stations
de non, parce que là, il n'y a pas photo. Hein. Le Français, il n'aime pas les morts. Hein.
Mais c'est pour ça que moi, je reproche un petit peu un truc au gouvernement. Parce que je suis indulgent avec lui. Non, mais bon, je suis indulgent au début.
Indulgent.
Si, je suis indulgent avec lui. Si. Non.
Oui, non, je déconne.
Je suis indulgent avec au début de la pandémie. On ne savait pas où on allait, etc. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est qu'aujourd'hui, il nous repropose qu'une chose, c'est le confinement. Il aurait fallu en poser la question à Louis Elbrun. Notamment sur les hôpitaux. On a mis des moyens sur les hôpitaux importants pour fermer, par exemple, les blocs, pour les transformer en réa, etc. etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas de solution, je dirais, d'urgence. C'est ça, il nous faudrait un plan d'urgence sur les hôpitaux. Alors, moi, j'aurais bien aimé poser la question à Louis, lui dire, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre des unités mobiles? Par exemple, ça existe.
Il a évoqué qu'il fallait peut-être.
L'armée. Ça arrive pas. Parce que des hôpitaux mobiles, pour renforcer certaines régions où on est en sursaturation de réa, ben pourquoi pas? Mais ça, j'ai pas l'impression que ça arrive.
Alors, on va changer de sujet parce que c'est pas tout ça, hein, mais on en a d'autres à voir. C'est compliqué.
On parle d'autre chose que du Covid.
Non, mais tu mets le doigt sur le Covid, là, et sur les hôpitaux qui sont débordés. Donc, les hôpitaux de plusieurs régions d'Indonésie font face à un afflux de patients souffrant du Covid-19. Du coup, la ville de Madian, sur l'île de Java, vient de convertir un train en centre médical d'urgence. Voilà, vous montrer que eux, ils ont trouvé cette solution-là. C'est un train complet qui a été transformé en fait en hôpital, tout simplement.
Pourquoi on n'est pas capable de faire ça ou d'y réfléchir, pour renforcer une région, on envoie un train ou un hôpital mobile.
On n'a pas assez de rails.
On
saute du coq à l'âne, on prendrait le train d'épine. On saute du coq à l'âne.
À l'épine, oui.
Et Loulou le disait tout à l'heure, il disait que le gouvernement et les politiques allaient être balayés dans pas longtemps, hein, avec les élections, à voir. En tout cas, il y en a un qui aimerait bien, effectivement, qu'il soit balayé, c'est Francis Lalanne.
Non.
Je vous propose d'écouter.
T'as décidé de nous faire rigoler, toi.
Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit.
Il faut, sur ma pétition ou d'une autre manière, que les Français officiellement se mobilisent pour demander aux députés et aux sénateurs de déclencher l'article 68 et la destitution du président de la République. C'est lui le seul responsable de tout ça. C'est lui, quand il parle à la télévision, qui dit « j'ai décidé », alors que son rôle, article 5 de la Constitution de la France, n'est pas de décider. Son rôle n'est même pas de gouverner, son rôle est de présider et de veiller au respect de la Constitution. C'est la sentinelle du peuple, normalement, c'est lui qui doit veiller à ce que tout ce qui est en train d'arriver en ce moment dans notre pays n'arrive pas. Et vous voulez que moi je ferme ma gueule et que je reste chez moi? À laisser ces gens-là continuer à faire ça? À faire des gardes à vue sans motif? À tirer sur des gens innocents dans des manifestations alors qu'ils ne sont même pas armés et qui font de mal à personne? À leur ôter un œil, à les estropier. Eh bien, je demande que cet individu, que ce blanc-bec, soit destitué par des moyens constitutionnels, non pas des moyens de subversion, non pas des moyens d'agitation de rue, mais des moyens constitutionnels, des moyens qui sont la mise en œuvre d'outils dont la Constitution de la France dispose pour mettre à bas les tyrans, Lorsqu'un président de la République élu se conduit comme il est en train de se conduire, il n'est plus le président de la République.
Alors moi, ça m'a fait un petit peu de la peine de voir Francis comme ça, hein, parce que bon, il est un peu jeté en pâture là en ce moment, un petit peu partout. Alors on le sait fragile psychologiquement hein, depuis pas mal de temps. Et lui offrir une tribune, est-ce que c'est bien raisonnable? Là, il était invité du site complotiste France Soir.
Ah,
vous savez. Alors François, c'était le journal, vous savez, le titre de Pierre Lazareff, hein, qui avait été créé il y a bien longtemps et qui est devenu depuis un puissant relais des théories conspirationnistes. Voilà. On l'a vu également chez Hanouna, se fighter avec un médecin, annoncer qu'il y avait des remèdes qu'on ne voulait pas nous donner, que le masque servait à rien, bref, la panoplie totale du parfait complotiste. Alors, ben, je voulais avoir...
Est-ce que les cuissards de César servent à quelque chose?
Je sais pas. Moi, je me demande toujours, quand j'entends ces gens-là parler comme ça, je me dis, mais à qui profite le crime?
Est-ce qu'ils sont réellement suivis, ces gens-là? Il y aura toujours des minorités. Mais pour le coup, nous, ça nous fait plutôt rire.
Alors,
Il est presque éloquent.
Moi, je dis, c'est un vaccin comme on le faisait à l'époque de Pasteur. C'est-à-dire que c'est un virus dans le... grâce à lui, en disant ce qu'il dit, on ne peut que comprendre le contraire. Non mais, c'est vrai, il tue, en disant ce qu'il dit, il tue l'envie de destituer le président, parce que c'est terrible.
Si vous voulez, question qu'on peut se poser,
il a fait des liens, il est parti du Covid.
Il est parti sur les gilets jaunes. Oui, bien sûr.
Il te manque un œil.
Ruiner un pays.
Pas l'œil de la connaissance.
Parce que là, on est en train de ruiner notre pays. Enfin, que dis-je? Ruiner un pays. Ruiner la planète au profit, donc, selon ces conspirationnistes, de trois laboratoires. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal hein, qu'il y ait des profiteurs. Bon, on ne fera pas l'homme, je le conçois. Vrai, ouais. On l'a vu par le passé, hein, avec les grandes guerres, par exemple, où il y a eu toujours certains pour se sucrer sur le malheur des autres. Mais là, quel serait l'intérêt pour un gouvernement, quel qu'il soit, de ruiner le pays qu'il dirige? Moi, c'est ça, en fait, qui me bloque sur les conspirationnistes.
Non, mais il est malade. Enfin, tu l'as dit, il est malade. Je pense qu'il est malade et il vaut mieux qu'il retrouve sa guitare, qu'il reprenne sa guitare et qu'il enlève son gilet jaune, quoi. C'est un non-événement, ce qu'il vient de dire.
Oui,
mais comme tu dis,
le problème, c'est qu'on le voit partout.
Il sert pas sa cause.
On le voit partout, il est relayé partout.
Parce qu'on a envie de faire un peu du buzz. Voilà,
Il sert Macron.
Il est tellement dans l'excès que...
Il vaut mieux un Lalanne qui dit ce qu'il dit qu'un Mélenchon ou une Le Pen pour Macron.
Alors, c'est plus facile. J'ai fait des recherches un petit peu. Il avait déjà attaqué un autre président. C'était à l'époque Nicolas Sarkozy, où il était invité sur un plateau de télé où il présentait un livre.
Et Francis Lalanne qui s'adresse au président de la République, en poète engagé qu'il est, ça s'appelle « Mise en demeure à Monsieur le Président de la République française ». C'est un petit livre hein, chez Jean-Claude Gavrevitch Édition. Peut-être avant de donner la parole à Zemmour et Nono, expliquez-nous pourquoi vous avez ressenti ce besoin d'écrire comme ça au Président de la République, en l'occurrence, puisque c'est lui en ce moment, Nicolas Sarkozy.
D'abord parce que je trouvais que les remises en cause qui étaient faites sur son action et sur lui-même était, à mon avis, souvent mal fondé.
Voilà, ça, c'était il y a quelques années, hein, sous Sarkozy. En 2010 aussi, il était monté au créneau parce qu'il était toujours très énervé. C'est le chanteur énervé. Et c'était sur une radio, c'était sur Oui FM.
Ça m'énerve de parler à quelqu'un. Vous êtes en train de bouffer le mandarine, en train de m'engueuler parce que soi-disant, tous les politiques sont corrompus. Je vous dis, c'est pas vrai. C'est poujadiste, ce que vous dites.
Écoute, moi, je te dis, le système est corrompu.
C'est quoi le système? Le Parti Socialiste?
Non, le système politicien, le clivage partisan.
Mais ça veut rien dire, le système politicien. Non, mais ça veut rien dire. Je vous sens énervé, hein.
Ouais, tu m'as gonflé. J'aime pas le ton, tu vois. Je suis pas un crétin, j'ai 51 ans. Écoute-moi! J'ai 51 ans. T'es un bébé, j'étais déjà en train de faire de la radio. Tu vas pas m'emmerder! Ok, je suis arrivé tranquille, tu me parles un petit peu d'ironie, ça va, mais trop c'est trop, d'accord?
Je vous posais une question simple.
Tu m'emmerdes. Là, je suis pas payé, toi, t'es payé, d'accord?
Oh,
pas chier. Tu programmes mes chansons sur ta radio?
Non, mais moi, je programme pas.
Je t'emmerde, toi et ta radio.
C'était qui le journaliste?
C'était un journaliste de WFM. D'accord. Voilà, c'était en 2010. D'accord. Et puis
j'avais l'impression de reconnaître la voix, c'est pour ça.
Et puis on se souvient, je sais pas si vous vous souvenez, d'une émission qui s'appelait Sacré Soirée.
Ouais.
Vous vous souvenez de Sacré Soirée?
Sacré Soirée, oui, mais de son intervention, non.
Ah, où il était venu, il avait écrit un opéra, mais personne n'en voulait.
Non.
Bah si. Vous en souvenez pas?
Allez, vas-y, envoie.
Derrière les théâtres, on paye des impôts, on paye des trucs. Et derrière les théâtres, il y a des gens qui dirigent les théâtres, les opéras, tout ça. Avec le pognon de tous les gens qui travaillent en France. Et c'est des ronds de cuir, comme les a décrits Courteline. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que moi, cette musique, je l'ai écrite. Note après note, je l'ai écrite jusqu'à la partition du triangle, j'ai tout écrit. Et tous ces ronds de cuir qui sont derrière leur opéra. Où est la caméra? Où est la caméra?
Elle est là.
Voilà. Tous les ronds de cuir, tous vos ronds de cuir qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des gens. Voilà, il n'y a pas que moi, il y a plein de jeunes compositeurs comme moi qui sont pas morts, qui sont vivants et qui ont besoin d'endroits pour qu'on joue leur musique. Et vous, vous n'êtes même pas capable de la lire. Et eux, ils l'ont écrite. Alors les empêchez plus. Les empêchez plus de jouer leur musique.
On dirait Homer des Simpsons. Ah, il a même...
C'est ça.
Bon, tout ça pour dire que voilà,
ça fait un moment que ça le travaille quand même.
C'est Francis quoi, c'est
il
Francis.
Il a un petit souci quand même.
C'est Francis, ouais, c'est Francis. On
il
le refera pas.
Tout seul dans sa tête.
On le refera pas. Il y a eu, il y a eu.
Colocation.
Tu parlais de Marine Le Pen tout à l'heure.
Oui.
Il y a eu les vœux. Tu sais, en début d'année, elle est partie.
Non mais
non, les vœux.
On n'en veut plus. Non.
Il y a eu les vœux. Les gens n'étaient pas là. Parce que on n'a pas le droit.
C'était pas en présentiel.
Voilà, comme on dit. Hein,
la terminologie,
c'est ça. Présentiel. C'était en distanciel.
Voilà.
Et non pas en présentiel.
C'était dans sa cuisine avec son papa.
Non, non, elle, elle était. Elle était devant.
En présentiel, ça postillonne.
Elle était quand même devant un parterre de quelques journalistes, puis il y en avait beaucoup qui étaient en visio, quoi. Voilà. Et comment a-t-elle commencé? Elle a dit ça.
Durant ce rendez-vous annuel où généralement on peut se dire les choses qu'on n'a pas l'occasion de dire dans l'année, je n'entends pas vous parler politique. Enfin, pas trop.
Pas trop. Je vous ai fait un petit florilège.
La situation que vit le pays ne pousse pas à l'optimisme. Le temps des gestionnaires, des pseudo-sachants et des boutiquiers est fini. Ces débats, si essentiels à la respiration du pays, doivent pouvoir se tenir. Le peuple souverain puisse s'exprimer par un arbitrage électoral. Lors de la dernière présidentielle, des pénéloperies et des affaires de costumes ont occupé le devant de la scène et fini par occulter une partie du débat de fond. Cet effort, nous ne l'avons jamais relâché et allons l'intensifier par la publication de documents structurés sur tous les sujets. Le 29 janvier, je vous présenterai par exemple notre contre-plan sur l'islamisme sous forme d'une proposition de loi. L'immigration, bien sûr. La laïcité. Le mondialisme. L'ensauvagement et la violence gratuite. Le ras-le-bol routier et fiscal. La France des oubliés, bien sûr. La revalorisation du travail. Nous ne nous inspirerons pas de Joe Biden et ne mettrons pas dans des meetings vides des drapeaux à la place des participants.
C'est un opéra écrit par Lalanne. Hein
non, non, mais c'était rigolo parce qu'elle démarrait en disant on va pas parler de politique. En fait, sur 99% de son intervention, ce n'était que, évidemment, de la politique. Cela dit.
Dit comme ça, on dirait du Lalanne. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein.
Cela dit.
Rapide.
Cela dit. Un sondage est sorti et donne Marine Le Pen en tête, comme en 2000, avant, je ne sais plus, c'était qu'en 2017.
Ouais.
Donc, un an avant, 2016, il y avait un sondage qu'il avait donné en tête au premier tour et même vainqueur au deuxième tour, face à François Hollande, qui, bien sûr, ne s'était pas présenté. Donc, aujourd'hui, Marine Le Pen arrive en tête du premier tour face à Emmanuel Macron. Elle est largement en tête au premier tour, mais elle n'est pas gagnante au deuxième tour, encore. Parce que pour l'instant, c'est toujours Emmanuel Macron, 52, Marine Le Pen, 48.
Ben, ça va à l'encontre de ce que nous disait Louis, ça.
Ça va à l'encontre, oui, oui, c'est ça.
À qui profite le crime, là?
Alors, mais la question que je me posais, je me dis, mais on attend un coup de balai avec cette pandémie. On se dit.
Je suis pas sûr, non.
On se dit, tous ces politiques-là vont être balayés.
Il va y en avoir
d'autres qui vont revenir.
Moi, je serais un complotiste et je dirais, mais ça ne peut être que Macron qui commande le sondage. Parce que ça le sert.
Mais bien sûr.
Oui.
Ça le sert pas.
Ah si.
Si,
ça le sert.
Mais si, puisque les Français pensent l'inverse de ce qui est.
Chaque fois que t'annonces. Non, mais faut être. C'est exactement l'arbitrage entre la mort et la faillite. C'est exactement l'arbitrage entre n'importe quel président et Le Pen ou Mélenchon.
Parce
que Le Pen ou Mélenchon, c'est le décès, ça, les Français. À mon avis, même si un jour
c'est
peut-être
le pire, c'est la politique du pire.
Oui, il y a pas peut-être 49% des gens qui se disent un jour, oui, je voterai, mais il y aura jamais 51% à la fin qui votent. Je n'y crois pas. Non, ça, c'est mon avis.
Il y a une détestation profonde d'Emmanuel Macron depuis quelques années maintenant, depuis pratiquement 2 ans.
Tu tues Le Pen avec les mêmes méthodes de Le Pen. Tu tues Mélenchon avec les mêmes méthodes. Tu fais peur en annonçant que Le Pen arrive ou en annonçant que Mélenchon arrive. Tu fais peur.
Le sondage est pipé parce que tu vois bien, on part de Le Pen et de Macron, mais qui en face?
Ah, ben non.
Qui en face?
Mais
c'est ça.
Mais non, attends.
Il y a qui en face?
Mais tu avais. Non, mais.
Il y a Michel Barnier, on l'a su tout à l'heure.
Il va arriver.
On parle pas des troisième, quatrième.
Xavier Bertrand.
Non. Le sondage. Là, on avait pris les deux premiers du premier tour, mais derrière, exactement, il y avait donc Mélenchon, qui est toujours là. Voilà. Il y avait Anne Hidalgo aussi, qui était là, qui apparaissait dans le sondage. Il y avait Xavier Bertrand, qui était en troisième position. Xavier Bertrand, qui était en troisième position à 15 et quelques. D'accord ? Donc, c'est pour vous donner 22, je crois, pour Macron, 25 pour Marine Le Pen, 15 pour Xavier Bertrand. Derrière, il y avait notre ami Mélenchon. C'est dommage, j'aurais dû le sortir les chiffres. Il y avait un tout petit pour le PS.
On se retrouve dans la même
pour le PS, il y avait
configuration
7%,
2016.
Voilà, 7%. Parce que Mélenchon était plus haut. Là, il est plus bas.
Ouais, il était parti plus bas, il était monté. Plus haut,
ouais. Donc, non. Il n'y a pas que. Il y a même des nouveaux, puisque il y a dedans celles qui pourraient représenter le PS. Ça va les faire réfléchir, puisqu'elle ne sort qu'à 7%. Anne Hidalgo ne sort qu'à 7%.
Elle fait le score de Hamon, hein, c'est bien. Dans 9 mois, tu as le Covid, tout va bien. Ton Macron, il te dégage Véran parce que il nous a mis la misère jusqu'à maintenant. Il enlève tout ce qui sent un peu mauvais par rapport au Covid. Il en remet 2-3 d'aplomb. Il peut lui arriver effectivement de revenir parce qu'il aura été le président qui aura géré la crise du Covid.
Je pose la question à Michel qui est quand même le plus raisonné de cette table.
Non, absolument pas.
Raisonnable. Là, c'est lui qui a le plus de cheveux blancs.
En plus.
Est-ce que
vous les voyez pas, les gens.
Laissez Michel parler.
Moi, je pars d'un autre constat. Il faut savoir qu'en France, il y a un certain confort, même si c'est très compliqué aujourd'hui. On vit quand même dans un certain confort. Et avant d'arriver chez Mélenchon ou chez Le Pen, il y a la majorité des Français qui vont réfléchir comme ils l'ont fait antérieurement avec Chirac et Le Pen, avec Marine Le Pen et Macron. Moi, je très sincèrement, c'est bien qu'ils existent parce que ça secoue un peu le cocotier. Oui. Mais de là à considérer que la majorité des Français iront d'un côté ou de l'autre des extrêmes, moi, je ne veux pas y croire. Alors, ça se produira peut-être, je n'ai pas de boule de cristal. On est dans un principe, on vit encore avec un confort, avec un État qui, même si on change les acteurs, ça fonctionne. Il n'y a pas grand-chose qui change, pour être très honnête. Pourquoi demain, on irait chercher, que ce soit Mélenchon ou Marine Le Pen, qui nous disent quand même des choses qui sont en dehors de la réalité. Donc, c'est prendre énormément de risques. Donc, non.
Pourquoi ? Alors, tu poses la question, pourquoi changer ? Parce qu'on a la Covid qui a fait exploser la société.
Il y a un élément qui va...
Et notre manière de...
Exploser la société, je ne sais pas, parce que là, les Français, mine de rien, se sont quand même conformés aux règles demandées. Parce que c'est vrai que la sécurité nationale, elle passe par l'État, et que l'État nous a demandé de faire certaines choses. Pour le plus grand nombre, on a respecté ces choses-là. Est-ce que le résultat, il est à hauteur espérée ? J'en sais rien. Pour le coup, on n'a pas trop le choix, comme le disait Pierre Rouly. On a une multitude d'informations, son sens et son contraire. J'avoue très sincèrement que moi, aujourd'hui, je vais me confondre régulièrement à ce que l'État me demande, parce que aujourd'hui, je suis plus capable d'avoir un discernement réaliste de cette société, que ce soit en termes de santé ou en termes d'économie. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a le PIB, notamment la dette publique qui a explosé. Aujourd'hui, oui, c'est facile d'emprunter, puisqu'on ne rembourse quasiment pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'on emprunte, mais on ne rembourse rien. Puisque jusqu'à maintenant, on ne paye l'État jusqu'à ne paye que les intérêts de la dette. Pour le coup, il faut savoir qu'à un moment donné, est-ce qu'on la remboursera ou la remboursera pas, c'est un autre débat. Mais il faut savoir que ça ne sera pas gratuit envers et contre tout. La dette, même si on ne la rembourse pas, il y aura des écrêtements parce que la plus forte partie de la dette publique en France, c'est l'épargne des Français, entre autres. Vous savez, si vous avez des fonds en euros, c'est pas neutre. Ça passe aussi par là. Donc, à un moment donné, peut-être que la dette nationale sera en partie écrêtée, mais ça va nous faire drôle. parce que derrière, on va écréter certains capitaux. Et le deuxième élément qui est évoqué aussi, c'est l'inflation, qui sera une désolation, parce que ça va, si on a une inflation d'un certain niveau, en l'espace de 5 et 10, entre 5 et 10 ans, on va se retrouver avec moins de 50% de capital qu'on a aujourd'hui. Mmh. L'euro, jusqu'à maintenant, nous a préservé de nos capitaux, et c'est une bonne chose, sur ce point de vue-là. Mais demain, j'avoue que très sincèrement, cette dette, elle est énorme. C'est pas spécifique aux Français.
Oui, bien sûr.
L'Italie, c'est pire. Les Américains, c'est pire aussi. Mais à un moment donné, aujourd'hui, c'est vrai, l'État fait son job, et on l'a tous dit, il aide à droite à gauche. Sauf qu'à un moment donné, si on ne demande pas le remboursement, ben tant mieux. Mais si à un moment donné, il va falloir commencer à rembourser à la fois le capital, voire une inflation, voire un taux qui peut franchir les 2%, ça va nous faire très très mal.
Comme on est tous touchés, je crois que c'est Hamon que j'ai entendu brièvement cette semaine.
Il est toujours là ?
Oui, oui. Ah oui. Il était dans mon tiroir, là. J'ai ouvert le matin pour prendre des couteaux et fourchettes. Oh, Hamon !
Ah mon Dieu !
Et il me dit, oh Pierre-Louis, il a une idée.
Non, je rigole. Allez, tu termines.
Ouais. Hamon évoquait un truc que j'avais évoqué ici il y a quelques temps. Ça me faisait plaisir de considérer qu'un jour, on s'amnistirait de toutes les dettes.
Ah oui, oui.
Et c'est quand même assez probable.
Alors,
le seul risque, c'est l'inflation. Mais tu vois, tu évoquais le capital. Le problème, c'est qu'effectivement, s'il y a de l'inflation, on se retrouve avec tout notre capital qui vaut peut-être la moitié ou même les trois quarts ou un quart de ce qui valait. Sauf que comme l'assiette fiscale dans tous les pays, c'est soit de la valeur ajoutée, soit du capital, ils peuvent aussi considérer qu'il faut trouver un système pour que l'inflation n'arrive pas malgré le fait qu'on annule la dette de partout.
Mais ils ont l'outil. C'est la CSG. Dans 5 ans, si on veut absorber certaines choses, on va monter à 30-33% de CSG sur tout l'ensemble des revenus.
Non, mais là, tu ne t'amnistis pas.
Non, mais après la TVA, pas. Ça va faire
mais...
beaucoup. Hein.
Non, mais non, là, non, tu ne t'amnistis pas. Rêvez pas, les mecs, à un moment donné.
Non, mais je suis d'accord.
Il va falloir.
En fait, quand tu travailles dans l'année, pendant 14 mois, tu rembourses la dette.
On va terminer sur cette note très optimiste. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 671.